curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Bon, on a ce qu'on appelle des chasseurs de pédophiles. Ils sont appelés à Gatineau les pédobusters qui ont été arrêtés, accusés. Puis il y a une série d'accusations, là, ça va de harcèlement, intimidation, leurre. Tout ça parce qu'ils se sont autoproclamés justiciers pour intimider ceux qui sont attirés par les enfants. Alors, est-ce qu'on doit ou pas les traduire devant les tribunaux? Nathalie.
Ben la justice a fait ce qu'elle avait à faire, Paul. Et non, elle n'a pas commis une erreur. Personne dans notre société ne peut se faire justice soi-même. C'est une règle fondamentale qui nous met à l'abri de l'anarchie. Je comprends cependant le combat de ces cinq acolytes. D'autant plus que, en fait, je dis la justice doit faire a fait ce qu'elle devait faire. J'ajouterais que en janvier dernier, des policiers de la ville de Gatineau sont allés cogner à la porte entre autres de Joey Chartrand pour lui dire, écoute Joey, là, avec tes gars, là, ta gang, tu peux plus faire ce que tu fais, là. C'est pas possible. Et ils ont été prévenus que s'ils ne cessaient pas de faire ce qu'ils faisaient, peut-être qu'ils devraient composer avec la justice. Ben, c'est ce qui est arrivé. Tu as référé aux accusations dont ils font l'objet, là. 38 chefs d'accusation pour les cinq hommes. Mais il y a également une accusation de distribution de matériel de pornographie juvénile. Je me suis dit, ben, moi, c'est quoi ça? Mais en fait, ces gars-là se sont transformés comme des agents doubles, hein. Ouais. Alors, ils piégeaient les pédophiles. Fait que sur Internet, ils partageaient du matériel pornographique, pédopornographique. Alors, c'est ce qui fait que la justice a sévi. Mais fondamentalement, on peut pas quand même dire qu'on ne comprend pas le combat de ces gars-là, parce que on est tous frustrés de voir à quel point il y a la pédophilie sur Internet. C'est un fléau. Puis on est tous frustrés de voir à quel point il y a des pédophiles qui commettent des crimes impunément année après année sur le web. Je pensais à Gabriel Nadeau-Dubois sur le web et c'est, on peut pas tolérer qu'une société que les citoyens ramassent leur batte de baseball puis décident d'aller faire la chasse aux pédophiles, là. On peut pas tolérer ça.
C'est une vague qui prend sa source aux États-Unis. Ça fait plus de 20 ans qu'il y a ça. Il y a même une émission qui a été faite là-dessus à NBC qui s'appelle How to Catch a Predator. Ça a joué à NBC en 2014. Elle est régulièrement reprise sur les écrans. Puis c'est toute une culture là qui s'en prend à la perverted justice. Donc, on considère que l'État est pas capable de faire son travail. Et il est vrai que on a vu énormément d'exemples où les policiers sont frustrés. Par exemple, quand on a référé à ce système informatique qui permet de savoir qui regarde de la pédopornographie et qui en échange. Donc, la SQ a un écran avec des points rouges qui s'allument partout, mais n'est pas capable d'intervenir parce qu'elle n'a pas les ressources suffisantes pour le faire. Donc,
mais c'est parce que c'est compliqué, je l'ai vu, ça.
Vas-y.
Ben oui.
Mais la difficulté, d'abord, la première, ce sont les effectifs. Puis c'est vrai pour Montréal, puis c'est vrai pour la Sûreté du Québec. Il pourra en arrêter 25 tous les jours, là. Mais un, c'est le manque d'effectifs. Deux, t'as beau dire, voici, il y a une communication entre des adresses IP. Qui est derrière l'ordinateur? Comment fais-tu la preuve de ça? Quelqu'un qui vit tout seul, plus facile, mais t'as le père, t'as le fils, ça demande du temps, bâtir une preuve. Faut visionner après ça des images qui sont saisies. Est-ce que c'est de la porn avec des kids, avec quel type? C'est tout un job avant de pouvoir arriver à la cour.
Fait que les autres, ils ont pris un shortcut.
Exact.
C'est ça. Ils se disent, regarde.
Il y en a d'autres, hein. Je peux te dire
Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Eux, ils se disent. Mais, et d'ailleurs, bon, il y a ça d'une part, les policiers qui ont avoué pas être capables d'intervenir. Puis d'autre part, il y a tout le fait qu'une part importante de cet échange-là entre des prédateurs et des mineurs, se fait par échange privé. Donc, c'est un échange entre deux personnes. C'est une fois qu'il y a eu hameçonnage, après ça, c'est un échange privé. Fait que, comment tu fais pour intervenir? Et eux, ils ont dit, bon, tu sais comment on va faire? On va rentrer dans l'échange privé. On va générer un leurre, puis on va aller chercher ce gars. Avez-vous vu Jean Barbeau, l'article dans Urbania? Ça vaut la peine d'être lu.
On lui a parlé tantôt.
Ah, OK, excuse-moi. J'étais sur mon bicycle, j'ai pas entendu. Puis c'est fascinant. Donc, un des gars, donc, a eu sa sœur qui a été abusée, puis il s'est dit, non, c'est pas vrai, pas vrai que le gars va s'en tirer avec si peu de peine. A décidé de passer à l'action. Ses chums se sont réunis avec lui, les gars qui travaillent sur le même chantier. Puis là, ils ont décidé d'y aller. Ce gang-là, ce groupe-là, a pas l'air de faire de l'extorsion. Donc, ils prennent juste les photos, ils les diffusent après ça avec le nom puis le nom de l'employeur souvent. Puis là, donc, ça fait que cette personne-là, la personne qui a été coupable, entre guillemets, d'avoir rencontré un faux jeune, se retrouve vraiment comme gros gens comme devant. Il peut perdre sa job, sa réputation, etc. Mais c'est pas le cas partout. Beaucoup, beaucoup d'extorsions aux États-Unis. C'est avec des gangs comme ça qui font de l'extorsion en même temps. Ils se font justice. OK, donne-moi 10 000 piastres parce que sinon, on met ton nom. Mmh. Et là, ça dérape.
Mais les gars en question sont accusés aussi d'intimidation, de séquestration, de harcèlement criminel. Le plus ironique, c'est que leur arrestation et accusation origine de plaintes, probablement de présumés pédophiles qui sont allés voir la police pour dire « Hey, ces gars-là passent leur temps à nous achaler. » C'est vraiment épouvantable dans cette histoire-là. L'autre chose, c'est que lorsqu'on parle de la pédophilie, c'est un réel problème. La Sûreté du Québec parle même de ce phénomène de l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet comme d'un phénomène accablant. Je lisais que le Centre canadien de protection de l'enfance, là, qui existe depuis 20 ans, dont la mission est tournée vers la protection des enfants contre ce genre de prédateurs sexuels sur le web, on est passé de 2018 à 2022, on est passé de 220 plaintes ou signalements à plus de 2000 plaintes en 2022. C'est une augmentation de 815%. Quand tu dis, Paul, la police pourrait arrêter 25 pédos par jour.
Absolument.
Non, mais 25 pédos par jour, vous rendez-vous compte ce que ça représente là, dans une société? On référait au logiciel là, tout
Je
à l'heure.
Je peux dire que c'est au Québec où on dénote le plus d'interactions de cette nature. À travers
Mais
le Canada.
Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe?
On n'a pas de réponse. Moi, j'ai parlé à un expert. Il fait le constat, là. C'est des chiffres qu'il a. Mais quand tu lui demandes pourquoi, est-ce qu'on les traque plus? Ça a l'air que non. Mais. Puis écoute, quand tu vois la carte je n'aurai pas trop de détails, là. Mais quand tu vois la carte du Québec, là, il y a des variations régionales importantes aussi.
Ce que j'ai compris en termes de variations régionales, c'est que près de la moitié de ces présumés pédos se retrouvent sur l'île de Montréal.
Mais il faut que tu t'inquiètes. Je te dirais qu'il y a des régions au Québec où c'est étonnant le nombre de cas.
Ben oui, mais quand tu regardes les arrestations, c'est beaucoup dans le nord. Les régions nord du Québec, mais en tout cas, en termes de féminicide, violence familiale, DPJ, si tu regardes ces cartes-là puis que tu les croises, tu aperçois que...
C'est quoi? C'est que ce qu'on a remarqué, là, je vois, mais souvent des consommateurs de pornographie juvénile sont des consommateurs de pornographie tout court et hard. Mm-hmm. Les policiers, quand ils ouvrent un ordinateur, ils vont trouver de la bestialité, ils vont trouver des affaires et des trucs avec des enfants.
Bon, OK. Là, je vais me faire un peu l'avocat du diable là, sur la pédophilie. Là. Il y a le leurre qu'eux ont utilisé, là, c'est un enfant qui se dit avoir... Ben, d'abord, dans la première annonce, il dit avoir 18 ans. Après ça, il révèle avoir moins de 15 ans. Puis il prenait la photo de le sexe d'un des hommes qui était sur place. Et donc, il y a une différence entre ça puis l'agression d'un enfant de 8 ans. Là. Je veux dire, c'est tout. En bas de 18 ans, en bas de 16 ans, tu peux pas avoir, même si tu as l'autorisation, tu ne peux pas avoir une relation entre un adulte et une personne en bas de 16 ans. C'est criminel. Mais quand on dit pédophilie, il va falloir faire des catégories quand même. Là. Le gars qui crouse sur Internet... Il est illégal, puis c'est dégueulasse, puis il n'y a pas le droit, mais qui croule sur Internet une personne qui dit vouloir entrer en contact avec lui, puis celui qui s'en va avec un jeune de 12 ans, qui lui l'a pogné parce qu'il a fait le tour d'une école ou parce qu'il est dans sa propre famille, n'oublions pas ça non plus, là. C'est beaucoup dans les familles.
La seule affaire que je te dirais, c'est que souvent, ce sont des opérations de séduction, puis t'arrives à convaincre quelqu'un de 14 ans.
Oui.
Moi, j'en ai vu, là, puis des filles qui se sont faites embarquer dans le système. Tu sais, il y a le prédateur, là, qui s'attaque direct, puis t'as tous ceux qui carburent au leurre puis au charme puis qui arrivent à se faire envoyer des photos puis c'est ça qu'ils veulent là.
OK. Mais je parlais de ces gars-là. Oui. Les cinq pédobusters, là, ils envoient d'abord une photo d'un gars qui dit avoir 18 ans, après il révèle avoir eu 15 ans, après ça il envoie la photo de sexe d'un homme. Je fais une différence. Pédophilie, c'est tout grave, mais pour intervenir, il va falloir faire des catégories.
On s'arrête là-dessus. Au retour, rapport des commissaires.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, rapport des commissaires, c'est Luc qui commence.
Ah, je vais commencer par le troisième lien. Là, le premier ministre est dans... Écoute, le pauvre premier ministre, il dit, je vais reporter, là, on va regarder, on va prendre le temps de regarder les études, parce qu'il faut pas juste regarder le court terme, il faut regarder le long terme. Parce que, tu sais, il y avait eu une diminution de 13% du nombre de voitures sur le pont Pierre-Laporte. Il s'est dit, m'attendre un peu, ça va remonter. Ips! Les statistiques sont sorties, c'est 19% les nouvelles statistiques. Donc, le nombre de voitures diminue, au lieu d'augmenter avec le long terme. Le premier ministre, là, va regarder le long terme. Mais moi, j'ai une solution pour vous, M. Legault. Vous avez dit, puis il l'a dit là, clairement, je suis toujours engagé à faire un troisième lien. Mais faites-le. Alors faites-le, partez-le de Lévis, faites une boucle, puis revenez à Lévis. Comme ça, il va être construit, il sortira pas à Limoilou, ça va limiter la pollution. Ça va servir les gens de Lévis, il va coûter moins cher. Il va être de centre-ville à centre-ville. Qu'est-ce que tu veux de plus?
Le même centre-ville.
Oui, c'est ça.
T'es comique.
Bon, les sargasses. Je vais parler un peu d'environnement, parce que tu sais, l'environnement, comment ça va aller? En 2100, ça va aller mal, etc. Bon, des petits indices cette semaine, trois petits indices. Les sargasses, c'est ces espèces d'algues 8000 km de long. Là. Donc, c'est un blob deux fois gros comme la taille du Québec qui flotte dans l'océan et qui se rapproche. Quand il se rapproche des côtes, ben, ça gâche le plaisir des vacanciers, parce que c'est non seulement sur la plage, ils en ont ramassé des dizaines de milliers de tonnes dans chaque municipalité, chaque État du moins. Et là, ça va dans l'eau aussi, puis ça fait une espèce d'eau brune, puis ça sent les yeux pourris. Enfin, c'est tout le contraire de ce que tu imagines par un paradis de vacances pour une semaine. Et les experts nous disent, ben, habituez-vous, il va y en avoir beaucoup, il va y en avoir de plus en plus. Et la raison, c'est que, bon, les sargasses, faut que, comme n'importe quoi qui pousse dans l'eau, il faut qu'il y ait un nutriment. Dans la haute mer, il n'y a pas de nutriments. Donc, pourquoi ça augmente? Ils ont fait des recherches, ils sont arrivés à la conclusion que les sargasses, quand ils s'approchent de l'Amérique latine, sont alimentés par les eaux de plus en plus polluées du Venezuela et du Brésil, notamment l'Amazonie, qui, elle, est porteuse de toute une nouvelle industrie là-bas, qui est, bon, d'abord, on rase les arbres, on coupe les arbres, et on fait beaucoup, beaucoup plus d'élevage. Et donc, c'est ce qui alimenterait la masse, le blob de sargasses, donc la déforestation et l'élevage. Et une autre affaire dans le même domaine, genre, ça n'a pas l'air de vouloir s'améliorer, puis c'est la maladie mangeuse de chair. Donc, il y a eu 4 cas au Saguenay, mais ça, c'est un streptocoque. Ça n'a rien à voir avec ce qui est plus inquiétant. Ce qui est plus inquiétant, bon, les streptocoques, là, c'est lié au fait que on s'est confiné, on s'est isolé des microbes pendant 2 ans et bon, ils reviennent, puis on est moins fort pour y faire face, donc il y a plus de cas. Mais l'autre affaire, c'est qu'il y a une augmentation du nombre de maladies mangeuses de chair, puis on a vu le cas de cette Québécoise qui a été prise au Mexique puis ne pouvait plus bouger de là parce qu'elle l'avait attrapée. Ça a été multiplié par 8, mais c'est pas encore énorme. C'est passé de 10 cas à 80 cas aux États-Unis. Le problème, c'est que c'est plus dans le golfe du Mexique, c'est toute la côte est américaine. C'est lié au réchauffement de l'eau. Et donc, ça rentre dans les fruits de mer. Ça rentre dans les fruits de mer et ça peut aussi, pour les individus qui ont des blessures sur la peau, mais c'est que les gens qui ont des problèmes d'immunité. Donc, c'est pas 80 cas, c'est pas beaucoup, là, mais ça a doublé, puis ça va encore doubler, puis ça va encore doubler, et c'est lié au réchauffement de l'eau. Donc, ça va pas s'améliorer. Dernier point, dans l'environnement aussi, faut pas faire peur au monde, c'est pas ça le but, c'est pas l'objectif, c'est de noter des petites variations dans notre environnement qui peuvent avoir de l'impact à long terme pour les suivre. C'est le sirop d'érable. Avez-vous vu ce magnifique reportage de Radio-Canada? Courez le voir, courez le lire sur Internet, sur le sirop d'érable. Moi, je suis tombé en bas de ma chaise. 89% des entailles de tout le Canada sont au Québec.
Ben oui.
Puis, quand tu regardes les régions dans lesquelles c'est... Ben c'est beaucoup Estrie, centre du Québec, Bois-Franc, Montérégie là et un peu dans la Naudière, beaucoup dans la Naudière aussi, mais pas ailleurs. Et quand tu regardes combien il y en a au Nouveau-Brunswick, combien il y en a en Ontario, tellement pas beaucoup, puis il y en a pas du tout dans le reste du Canada. Et donc il y a tout un beau reportage qui nous explique pourquoi c'est là. Et est-ce que c'est fragile, est-ce que ça pourrait changer avec le temps? Évidemment que la réponse c'est oui à long terme, mais c'est très instructif de voir comment l'importance du gel en hiver, l'importance du gel les nuits, gel des gels, c'est un processus où il y a un gel qui gèle le gaz qui est dans l'arbre, ça fait pression sur l'eau coule. Donc c'est inouï que ça soit ici au Québec, puis juste au Québec, puis les reporters font l'étude puis se demandent est-ce que il y a des risques à long terme. Allez voir ça.
Merci beaucoup, Nathalie.
Oui, pour la citation de la semaine, Richard, pèse sur le piton.
Le premier ministre, vient de se féliciter d'accomplir, moi aussi je vais dire un mot anglais, le wet dream de Gaétan Barrette.
Ah! La citation de la semaine, j'ai trouvé absolument suave. Qui a dit que c'était plate au Salon Bleu de l'Assemblée nationale? Gabriel Nadeau-Dubois qui avait un échange avec le premier ministre sur le grand projet de réforme déposé par notre ami Christian Dubé. Je lui souhaite bonne chance. C'est mon étoile de la semaine, Christian Dubé, qu'on soit pour ou contre. Ça prend énormément de courage de faire ce qu'il a fait. Ce qui devait arriver arriva malheureusement le chemin Roxham, les 6 corps qui ont été retrouvés dans le coin d'Aquassassenay. L'entente qui a été célébrée comme une victoire autant à Québec qu'à Ottawa, moi je dis ceci, qu'on assure un contrôle plus serré à la frontière, parfait, mais on a l'obligation comme société et l'obligation, la responsabilité d'offrir un minimum de dignité à tous ces migrants, ces demandeurs d'asile qui cherchent à traverser la frontière. J'espère que le Québec, ni le Canada, ni les États-Unis, j'espère qu'on ne deviendra pas l'Europe, parce qu'on a vu en Europe depuis des années là des pauvres migrants qui traversent la Méditerranée, qui meurent en mer. Il y a des migrants qui ont péri au sud de la frontière au Mexique, là, dans une prison. Les gardiens là-bas ont plutôt que déverrouiller les portes pour permettre aux migrants de sortir, les migrants étaient menacés d'expulsion, ils ont mis le feu à leurs cellules. Plutôt que de leur permettre de sortir, ils ont verrouillé les portes. 35 migrants qui ont perdu la vie. C'est terrible ce qu'on leur fait subir. Alors, vivement plus d'humanité dans le traitement de nos migrants. Est-ce qu'on est revenu au temps des Shylock pris citron cette semaine au Sius de l'Estrie? J'ai lu cette histoire dans le journal Le Devoir. Imaginez-vous donc que le Sius de l'Estrie charge 429 $ par jour aux aînés qui refusent une place en CHSLD. Un aîné se retrouve à l'hôpital. Vient un temps où on met fin à ses soins actifs, à des soins dits actifs. Alors, on invite l'aîné en question à aller à recevoir une place en CHSLD. S'il dit non, on dit, ben tant pis pour toi, on va te faire payer 429 $ par jour. Et depuis plus de 4 ans, c'est 3 millions de dollars dans les coffres du Sius de l'Estrie qui ont été récoltés grâce à cette pratique qui, honnêtement, est totalement inacceptable. Y a-t-il quelqu'un qui va interdire cette pratique? Parce que c'est une pratique qui est légale. J'ai envie de vous dire le cash avant l'humanité, le maudit beau système de santé qu'on a. Condoléances à la famille de la sergente Maureen Brault de la Sûreté du Québec. Ce qui est intéressant, c'est que le sénateur Boisvenu, qu'on a accueilli à l'émission, docteur Gilles Chamberlain, mène un combat actuellement pour qu'on réserve à des malades qui ont été psychiatrisés et qui retournent vivre en société. On souhaite que vous revoir de fond en comble la façon dont ces malades sont accompagnés. C'est intéressant parce que leur sortie arrive au même moment où la Fédération de la police nationale, qui est un regroupement de policiers au Canada, affirme que les tribunaux favorisent la récidive de criminels imaginés. Et tout comme le sénateur et le docteur Chamberlain, ses membres réclament plus de ressources pour mieux encadrer les mises en liberté sous caution et les libérations conditionnelles. Je pense qu'il est temps qu'on ait que les gouvernements se penchent là-dessus sur la façon dont ces pauvres malades sont encadrés. Et tu parlais du troisième lien, mon cher Luc. Ben, j'avais ça aussi sur ma liste. Qui vivra, verra. Tu l'as dit, le Geneviève Guilbeault promet une mise à jour d'ici juin.
Un instant. Oui. Sur Geneviève Guilbeault, oui. Les choses avancent lentement.
Je vais moi aussi, je pense, m'abstenir de répondre à des questions détaillées sur le troisième lien. Et je vais vous inviter à attendre la mise à jour. Je suis en train de travailler pour avoir quelque chose d'intelligent à vous dire.
Alors, on n'a rien d'intelligent à ajouter au dossier.
Non, mais je me suis rappelé, Paul et Luc, les bonnes paroles de notre ami, ton préféré, Paul, Maurice Duplessis.
Ah.
Maurice Duplessis, qui disait, en fait, qui affirmait que promettre un pont, c'est bon pour 3 élections.
Ah ben,
alors, avec
tort,
le tunnel, avec le tunnel, la CAQ en est à sa 2e élection. Alors, qui veut parier qu'on va se rendre à 3 élections avec le tunnel?
Duplessis donne à sa province.
Oui, mais tu sais qu'à l'époque, il y avait, pour le pont de Trois-Rivières,
oui.
Nous voulons un pont et nous l'aurons. C'était le slogan.
Ah oui?
De l'Union nationale, certainement, qui ont été demandé.
Ils l'ont construit.
Ben, ils l'ont construit.
Ben oui. Le seul pont qui n'est pas embouteillé dans la province.
Ouais.
Parce qu'il n'est pas si utile que ça.
Ben là, franchement, toi.
C'est une autre approche. Merci beaucoup à tous les deux. Bon week-end.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.